Vous écoutez RTL.
Maison, jardin, cuisine, brocante. Ce matin, Laetitia, Thierry, Églantine et Sébastien. Les amis, bonjour.
Ah, bonjour, bonjour,
bonjour, bonjour, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Bah écoutez, ça c'est pas ça, Laetitia, j'adore. Parce que Laetitia elle est au turbin depuis hier
24,
avec son
24.
Grand nettoyage de printemps. Laetitia n'allait
là, ce qu'on entend, ce sont les parisiennes.
Oui, je sais bien que c'est les parisiennes. On a surtout peut-être envie de prendre l'air. C'est toujours dans le registre, ah, le grand nettoyage.
C'est pas tout à fait ça en fait. Là c'est l'époque des barbecues, des plans de chat, des après-midi à se prélasser dans une chaise longue. C'est la période des apéros. Églantine, si vous, vous avez envie de recevoir vos amis, mm-hmm. Eh ben, il vous suffit de louer une terrasse ou un jardin.
Louer une terrasse ?
Mais oui,
ça se fait,
c'est pas mais possible. Oui, c'est un nouveau site internet qui s'appelle louerdehors.com. Il fonctionne sur le même principe qu'Airbnb, c'est mais dingue. Au lieu de louer des appartements, vous allez louer des jardins, des terrasses et même, pourquoi pas, un cours de tennis privé.
Donc
ou
on
une
loue
piscine.
Du non-bâti.
C'est
quoi.
Génial. Donc, voilà.
Je peux louer mon petit jardin.
Oui. Mais oui, en plus, c'est génial. Par exemple, ça pourra vous financer un jardinier ou vous pourrez mettre des sous de côté pour partir en vacances. Vous postez des photos de votre jardin et vous pouvez le louer pour quelques heures.
Sébastien, va-t-il vraiment faire fortune en louant son bout de jardin?
Ça dépend de plein de choses, en fait. Un grand jardin à 25 km de Paris, avec barbecue, dans lequel vous pouvez organiser des fêtes. C'est 5 euros de l'heure par personne.
Quand même.
Une terrasse plein sud de 12 mètres carrés dans Paris, c'est 2 euros de l'heure par personne.
Ouais.
Et généralement, dans le prix, évidemment, on vous propose l'accès à la cuisine, au lave-vaisselle et aux toilettes. Donc là, à 6 personnes, de 19h à minuit, ça fait quoi? 60 euros.
C'est raisonnable.
Pour un apéro, c'est sympa.
C'est génial, c'est et c'est un bon plan aussi pour organiser les goûters d'anniversaire des enfants.
Ah, ça y est, les niards,
ah ouais, ça
fait longtemps.
Ouais. J'ai repéré un terrain de pétanque dans une charmante courette à 5 minutes à pied du Vieux Lyon, une ferme familiale ou encore un jardin dans lequel on peut faire un cours de sport. Ouais. Ça, c'est à une heure de Paris. On peut aussi bruncher dans un jardin privé à Neuilly-sur-Seine.
J'adore ce concept.
Avant de mettre en location votre terrasse, par exemple, peut-être quelques conseils déco.
Oh, bah moi, je peux vous dire que cette année, ça serait bien de mettre, par exemple, un tapis d'extérieur. On
ça
les voit
bien.
Partout. Oui. En polypropylène, en vinyle, on les trouve à petit prix. Ils apportent une touche cosy, gaie, chaleureuse immédiatement. Pensez aussi à mettre des guirlandes lumineuses pour un esprit guinguette le soir.
Très bien.
Rajouter des lampes LED. Vous savez qu'on trouve des lampadaires ou des lampes à poser. Qui très ressemble bien, à celle de notre salon. Sortez les coussins. Bref, on reprend les codes de l'intérieur pour l'extérieur. Et puis, une astuce pour ceux qui ont un simple balcon en ville. Peignez le muret de votre garde-corps en couleur.
Ouais, mais Laetitia, le syndic, il ne va pas être content.
Ah non, mais attendez, ce que je vous explique, c'est le muret intérieur qu'il faut peindre. Celui qui est face à vous. Ouais. Vous êtes le seul à le voir et comme ça, vous n'aurez pas d'embrouille avec les syndics. C'est un simple coup de peinture et franchement, ça change tout.
C'est-à-dire, ça change tout à l'œil. Hein,
pour
ça
vous, à l'œil, bah ouais, c'est super rigolo. Vous êtes dans votre appart, vous voyez la couleur.
Succès de votre info, en tout cas, Laetitia Nallet. Je redonne le nom du site, tout de même. Louer dehors, tout attaché, donc en minuscule, louerdehors.com, louer, L-O-U-E-R, à l'infinitif. Thierry, pas du tout, puisqu'il s'agit maintenant de Sébastien qui veut nous parler.
Ah bah, avec plaisir. Hein.
Pourquoi est-ce que j'ai mis Thierry maintenant? Non, c'est vous. Pasta Verdura, épisode 2,
épisode
on ne mollit pas.
Mais oui.
Vous nous l'avez promis hier, Sébastien, une nouvelle recette de pâtes toute verte.
Oui.
Après les spaghettis au persil hier, place ce matin à une petite surprise.
Absolument.
Laquelle?
Je l'ai dit hier, c'est un produit que j'adore mais que je cuisine vraiment pas souvent, ce sont les fameuses nouilles de riz asiatiques, celles qui sont, vous savez, un peu épaisses.
Le cauchemar des glantiers.
Mais non, mais j'ai adoré, non. Mais au bout d'un moment,
c'est celle,
le parce que
c'est celle qu'on trouve,
matin,
vous savez, les
soir.
Nouilles de riz dans le fameux pad thaï des Thaïlandais.
Ouais, on les trouve très facilement dans les rayons asiatiques.
Tout, exactement.
Même à Haute,
au supermarché, il y a une marque qui est très bien qui s'appelle Ayam, qui est très correcte et qui n'est pas réservée exclusivement aux amateurs de rap marseillais, si vous me passez ce jeu de mots un peu débile. Donc, des pâtes qui sont vraiment fastoches à cuisiner et à assembler toujours à la dernière minute avec 2-3 bricoles dans l'esprit asiatique. C'est donc ce que j'ai fait le week-end dernier avec ce que j'avais dans les placards et dans le bac à légumes. Tout le monde veut la liste des courses à l'hyper.
Oui,
parfait. Deux toutes petites têtes de brocoli qui commençaient à faire un peu la tête.
Ouais.
Deux petits avocats qui, pour le coup, n'étaient pas trop mûrs. De l'ail, de l'huile de sésame, des noix de cajou pas salées, des petits oignons-tiges, vous savez qu'on appelle les cébettes dans le sud, de la sauce de soja, on en a tous, et éventuellement, moi j'en avais, des graines de sésame noires.
Oh bah voilà. Ça fait quand même pas mal de choses.
Mais il a
non, mais
liste.
Alors attendez, tout est trouvable, Laetitia, si vous allez ce matin même au marché, ou même au petit supermarché du coin, là, sympa, qui reste ouvert le dimanche matin. Mais ça, c'est juste pour trouver de l'huile de sésame et les nouilles de riz. Parce que, pour le reste, je vous le dis, les légumes, tout ça, frais, dispo, au marché.
Bon, voilà. À nos fourneaux maintenant.
Oui.
De toute façon, c'est une recette inspirée de l'Asie.
Absolument, absolument. On est passé, vous avez vu, Thierry, en un week-end de l'Italie à la Chine. C'est extraordinaire.
Invraisemblable.
Vive RTL, vive Maison Jardin.
Allons en Amérique du Sud.
Donc,
l'idée, les amis, on prépare les pâtes en se référant aux indications qui sont sur le paquet. Généralement, elles trempent un petit peu avant. On les cuit, on les refroidit en les rinçant. D'accord ? Le brocoli. détaillé en toute petite sommité, ça c'est fastoche, 6 gousses d'ail hachées grossièrement en gros éclats, et vous allez commencer à les faire revenir dans une poêle un petit peu chaude à l'huile de sésame jusqu'à ce que ces petits éclats commencent à peine à dorer et à griller.
Alors le brocoli, qu'est-ce qu'on en fait ?
Là, vous le mettez maintenant, Thierry, vous ne le mélangez pas, car il va commencer à griller à l'unilatéral en quelque sorte. Et quand il commence à être bien marqué, voire un peu noirâtre, c'est délicieux, une nouvelle giclette d'huile de sésame, vous couvrez et vous laissez cuire un bon 5 minutes
on
de
plus. On ne retourne pas, toujours d'accord pas le brocoli ?
Non, non, toujours pas, toujours pas. Vous baissez à peine le feu, mais ça va terminer de cuire le brocoli qui va rester un tout petit peu croquant. Vos nouilles donc de riz, cuites, bien égouttées, vous les intégrez maintenant en les séparant avec des baguettes ou à la fourchette si elles collent un tout petit peu, toujours une goutte d'huile de sésame si besoin, et là vous faites sauter 2-3 minutes, pas plus, puis vous coupez votre feu, le temps de préparer les avocats, en gros cubes, les petites tiges d'oignons cébettes finement ciselées, et au moment de servir, le plat est un peu tiède, donc vous dressez les nouilles de riz dans vos assiettes et par-dessus, vous venez disposer comme ça à la volée, les cubes d'avocat, quelques noix de cajou concassées, les graines de sésame noir si vous en avez, la cébette ciselée, quelques giclettes de sauce de soja, et voilà, c'est terminé, c'est un plat complet, c'est veggie, comme on dit de nos jours, mais c'est nourrissant, c'est savoureux, c'est simple, car moi aussi, il m'arrive d'être aussi fainéant que Laetitia.
Figurez-vous, nous Sébastien, avez décrit toute là, une opération. Quand même,
je bois quoi avec ça ?
Du thé ? On boit rien, on boit un thé.
Oui,
exactement.
Oui.
C'est une très bonne idée.
Je vous raconte une anecdote à propos de George Bush, l'ancien président américain, le père qui ne pouvait pas blairer les brocolis, et Barbara, sa femme, lui imposait de manger des brocolis.
Oui, exact.
Mais sauf dans son avion Air Force One, quand il partait en mission du président américain, qui n'embarquait pas Barbara. Là, il interdisait qu'on lui serve des brocolis. Ah si, il avait droit chaque jour. Mais je sais très bon pour la santé, mais enfin, lui, il ne pouvait pas blairer ça.
Ah ouais.
Mais lui, il a survécu alors que Barbara est morte, hein, je vous signale. Hein, la suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante. Dans un instant, les machines à coudre anciennes de Mademoiselle Églantine. Quant à Thierry, il a eu une drôle d'idée, hein, faire un potager à la mode des Iroquois. Donc j'imagine une crête, là, au milieu du potager.
Et des tomahawks.
Un truc comme ça. On va voir ce qu'il a exactement en tête. À tout de suite. La suite de Maison, Jardin, Cuisine, Brocante, avec, entre autres, Églantine Émeillé. Églantine, nous partons du côté de Vincennes, c'est bien ça ?
Eh oui, Vincennes, parce que ce week-end, moi j'aimerais beaucoup me balader du côté du château de Vincennes, aux portes de Paris.
Y a une brocante là-bas alors ?
Eh bien oui, c'est le salon antiquité Brocante que vous connaissez très bien, puisque je vous en parle souvent. Il est là ce week-end jusqu'à lundi prochain. Ce sont les mêmes antiquitaires et brocanteurs professionnels qui vont vous proposer ce mélange hétéroclite de meubles étonnants, des tapisseries, des statues, des objets en tout genre, avec certificat d'authenticité, bien sûr.
Églantine, niveau prix, ça doit douiller, non ?
Alors c'est vrai, les prix sont assez éloignés de ceux pratiqués sur les brocantes traditionnelles. Mais ça fait une jolie balade et surtout il y a de très très belles pièces à admirer si vous n'en avez pas les moyens.
Exemple.
Probablement la chance de découvrir des machines de toute beauté qui font la joie de nombreux collectionneurs. Je vous donne deux indices. C'est un outil inventé par le français Barthélemy Timonier, d'une précision mécanique.
C'est les machines à coudre.
J'ai
défloré le truc.
En tout cas, c'est une machine qui a révolutionné tout un secteur artisanal à partir de 1830. Il y a eu beaucoup dès la fin de la Seconde Guerre mondiale qui ont été fabriqués avec de l'acier des véhicules blindés hors service, abandonnés par les armées. Il y a des marques hyper célèbres. Vous connaissez tous évidemment Singer, mais aussi Pfaff, Elna. En tout cas, on l'appelait plutôt mécanique à coudre ou métier à coudre.
Ah, c'est joli.
Les marques de ces machines sont restées très familières. Elles sont entrées dans le quotidien de bien des Français. On a tous vu une machine à coudre dans la maison familiale.
Moi, j'en ai eu une.
Ma mère en a gardé 4 ou 5.
C'est beau d'ailleurs. Il faut les garder peut-être.
Alors, je trouve que c'est un très bel objet et qui peut encore servir. Alors, quand vous achetez une machine à coudre ancienne, je vous conseille d'abord d'identifier son fabricant, son âge, puis d'examiner son état. Par exemple, les fameux modèles Singer, c'est la marque la plus ancienne, la plus mythique, elles portent toutes des numéros de série à partir de 1960. Donc, celles qui n'ont pas de numéro, c'est qu'elles sont d'une fabrication plus ancienne. Les modèles les plus recherchés portent des noms que j'aime beaucoup, Feather White, Pois Plume.
C'est de la fonte, quand même.
Mais c'est de la fonte. Elles viennent toutes ensuite avec des numéros chez les Singer, la 301, la 66. Vous n'y connaissez peut-être pas grand-chose, mais je sais qu'à beaucoup, ça parle. Il y a aussi une marque américaine très célèbre, White, qui entre 1890 et 1950 était à la pointe de la technologie.
Ça coûte cher une machine comme ça ?
Une Singer électrique Feather White modèle 222K, produite dans les années 50, se négocie autour de 400 euros.
Ah, quand même.
Quand même, en état de marche.
Mais c'est des machines professionnelles, hein, c'est pour des couturiers.
C'est ça. Pour les machines manuelles plus anciennes, c'est un peu plus cher, on s'en doute, comme cette machine anglaise de la marque Jones & Co. qui se négocie 100 euros de plus, mais qui date de la fin du 19e siècle. Il y a des modèles plus anciens encore, comme l'original Express, qui date du début du 19e siècle et qui se négocie aussi à partir de 800 euros. Wow. Et bien entendu, ça, ce sont des prix indicatifs qui peuvent fortement varier.
Et les machines, elles ont intérêt à fonctionner à ce prix-là. Hein,
je crois que la plupart des amateurs s'en servent surtout pour la déco, mais certains les utilisent vraiment. Et là, j'ai une adresse. C'est à Bordeaux que ça se trouve et ça s'appelle les établissements Nonnet. Monsieur Nonnet a aujourd'hui plus de 70 ans et il restaure toujours toutes les machines à coudre. C'est un vrai passionné qui détient la plus grande collection du monde, soit 400 modèles.
Mais lui, il faut le classer au patrimoine de l'UNESCO.
Mais je suis bien d'accord.
Etc., hein.
Je vous laisse les adresses sur le site internet de RTL.
Et un de ces jours, à moins que vous l'ayez déjà fait, vous nous ferez une rubrique sur les vieilles machines à écrire. Vous
l'avez
déjà fait.
On en a parlé. Mais je rafraîchirai votre mémoire avec plaisir.
Moi, j'en ai une.
Moi, j'ai toujours ma machine de l'école de journalisme de Lille, pour le souvenir.
Mais je vais référer si je
Thierry Denis, il vous est venu donc une drôle d'idée, faire un potager, je disais, à la mode des Iroquois. Vous allez donc planter vos trucs avec un tomahawk.
Plutôt avec un bâton fouisseur, Bernard.
Est-ce que vous avez la tenue quand vous faites ça?
Non, blague à part. Oui, je vais jardiner comme jadis le faisaient les Iroquois, pour mieux me nourrir et pour pas cher. Bien sûr, les Iroquois d'Amérique du Nord, vous le savez, ils étaient surtout connus pour leur vertu guerrière et leur cruauté.
Ça ne vous ressemble pas du tout.
Mais cela ne les empêchait pas d'être aussi des jardiniers subtils qui faisaient merveille avec l'aide des trois sœurs.
Les trois sœurs?
Trois plantes américaines tellement nourricières qu'elles étaient élevées au rang de divinité. J'ai nommé le maïs,
le haricot.
Et la courge.
Ah, la courge.
Le maïs, le haricot, la courge.
C'est trois plantes divines. Je vais les semer à la manière des Iroquois dans un carré de mon potager.
Mais alors, qu'est-ce qu'elles ont, Thierry, de si intéressant pour vous dans votre Morvan, là, ces trois sœurs?
Tout tient en trois points.
Ouais.
Le repas complet,
oui.
La colocation et la résilience. Oui. Commençons par le repas complet.
Oui,
avec le maïs, le haricot et la courge, vous avez tous les sucres, les graisses, les vitamines et même les protéines.
Absolument.
Un parfait repas végétarien équilibré. Bon, même si vous pouvez ajouter quelques petites baies sauvages, un petit poisson, voire une aile de dindon les dimanches.
Ça, c'est bien.
Les cultivateurs indiens ont vécu pendant des millénaires avec cette triple culture.
Ça, c'est vrai.
Et alors, la location, là, je suis curieuse de savoir.
La colocation.
Églantine, maïs, haricots et courges vont être semés ensemble en mélange dans le même carré d'une vingtaine de mètres carrés. Le maïs est un tuteur parfait pour le haricot, donc gain de place. La courge, elle pousse dessous, elle court sur le sol avec ses larges feuilles, elle va étouffer les mauvaises herbes et protéger la terre du soleil brûlant. Les courges, ça s'étale beaucoup, vous le savez.
Oui.
Je pense que 3 ou 4 plants devraient suffire comme bon colocataire.
Il me semblait que le maïs épuisait la terre.
Oui, j'ai toujours entendu ça aussi.
C'est un mauvais procès qu'on lui fait en France. Depuis le temps que les Indiens en cultivent, ça se saurait. Cette céréale respecte les sols et peut être cultivée à la même place pendant des centaines d'années. Seul hic, il lui faut de l'azote.
Et de la flotte.
Ah, moins que le blé. Je vous l'expliquerai un jour. C'est là tout l'intérêt du haricot, dont les racines font copain-copain avec des champignons du sol qui captent l'azote gazeux qui circule dans la terre. Azote que le haricot va libérer dans le sol à la fin de son cycle. Donc je résume. Le maïs sert de tuteur au haricot, le haricot apporte l'azote nécessaire au maïs et la courge protège le sol. Le tout peut être semé et ressemé pendant des siècles, c'est bien la résilience.
C'est génial.
Magnifique.
C'est simple en fait.
Oui, c'est assez simple et naturel.
C'est simple, naturel et logique.
Indéfini.
Bon,
et puis voilà,
bon
donc, les trois sœurs des Iroquois sont donc d'authentiques déesses bienfaisantes. Ainsi parla le grand chef du Morvan. Sans aucun doute. Mes amis, je vous souhaite une excellente semaine. Amusez-vous bien, à la semaine prochaine.
À tout vite.